Oui.
Un lieu physique, mais vous le localisez, vous
Sous la Terre. Ah, ça, je ne sais pas exactement où. C'est peut-être à plusieurs endroits, mais en tout cas, il y a un vrai feu. Et c'est sous la Terre.
Le purgatoire
aussi.
C'est un lieu aussi.
Oui.
Sous la Terre aussi.
Sous la Terre.
Mais comment on sait ça, que c'est sous la Terre?
Ah, mais c'est deux fois, si je vous dis. Je vais vous le faire moins cher, mais. Mais moi, je crois plutôt ce que l'Église enseigne, oui.
Pour ce qui est de la réalité physique du feu infernal, ce n'est pas deux fois. La congrégation pour la. Pour le rite de la foi, mais comment on l'appelait autrefois.
Oui. Le Saint-Office.
Le Saint-Office avait statué sur Pie XI.
Oui.
Qu'il fallait le croire, mais ce n'est pas.
Un dogme.
Ce n'est pas un dogme, voilà.
Voilà, mais voilà ce que ça veut dire. C'est une doctrine catholique définitive. Ça, par contre, ça rentre là-dedans.
Oui, bien sûr.
Mais un dogme, c'est une définition solennelle et magnifique.
Et la différence ?
La différence, c'est une différence d'honneur et d'obligation de croire immédiatement.
Donc, on doit le croire immédiatement, ça.
Le dogme.
Le dogme, l'Immaculée Conception, mais le feu en enfer, vous devez le croire. Mais ce n'est pas au premier degré de la foi. Mais vous devez aussi croire que dans le livre de Tobie, le chien tournait de joie autour de Tobie. Parce que c'est dans la Sainte Écriture. Mais enfin, c'est le cinquième, sixième, huitième degré de foi. C'est pas, vous voyez par exemple que la femme qui a touché le Christ avait été Moroïs. Vous devez le croire, mais bon, c'est pas nécessaire à votre salut. Oui. Qu'il y ait eu 10 lépreux qui aient demandé au Christ d'être guéri et qu'il n'y en a qu'un seul qui était samaritain qui soit revenu, vous devez le croire, mais c'est pas un dogme. Vous voyez, Pie XII n'a pas dit, dorénavant, tous les chrétiens devront croire de foi divine et catholique qu'il y avait 10 lépreux que Jésus a guéri. Alors là, s'il le fait, il le fait, hein, mais on se dirait, mais. Pourquoi il nous dit ça? Le dogme, c'est la définition solennelle de l'Église. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très important pour le salut. C'est la raison pour laquelle on a proclamé l'Immaculée Conception. C'est la raison pour laquelle on a proclamé l'Assomption. On me dit, mais c'est pour honorer la Vierge Marie. On ne l'honore pas suffisamment? Pourquoi on a attendu 1854? Pourquoi on a attendu 1950? Eh bien, parce que, si vous voulez, c'est l'histoire de l'Église. L'Église s'occupe d'abord du Christ, s'occupe ensuite de conforter dans la foi. Et puis la Vierge Marie est honorée ensuite. D'ailleurs, c'est très digne. Mais on ne l'oublie pas non plus. Et ça nous concerne. Parce que si la Vierge Marie est immaculée dans sa conception, ça veut dire que l'une d'entre nous, a été préservé du péché originel. Et ça veut dire que le péché originel existe. Ça veut dire que donc la nature humaine a besoin de la grâce. L'assomption, ça veut dire que nous serons en corps et en âme dans la vie éternelle. Encore une fois, aujourd'hui, Sainte Catherine Labourée, elle a touché le corps de Marie quand même. C'est-à-dire que Marie était physiquement rue du Bac, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Comme elle était physiquement à Fatima. Les branches du chêne ployaient. Alors vous allez me dire, c'est la boule lumineuse qui était lourde. Non. Vous allez me dire, mais c'est pas. Justement, il ployait, mais si Marie était vraiment là, elle serait passée à travers les branches. Eh bien, c'était moitié miraculeux, moitié naturel. La Vierge Marie était physiquement présente. Et quand à Lourdes, les gens passent sous le rocher et qu'ils mettent la main. C'est parce que la piété populaire considère que Marie était les pieds sur le rocher, 3 mètres plus haut. Et vous pourrez toujours leur dire, mais non, elle avait utilisé un corps d'emprunt et tout ça. Hein, vous empêcherez jamais les fidèles de poser la main sur le rocher. Et ça, c'est le sensus fidei des fidèles. Et quand l'Église proclame l'Assomption, et qu'elle dit, Marie actuellement a son corps, hein, alors là, où? Mais là, on ne sait pas. Ah ben ça, on ne sait pas. Mais il est bien quelque part. Il est bien quelque part. Le Christ aussi est quelque part. Il a son corps. Et ceux qui sont ressuscités le jour de Pâques, est-ce qu'ils sont morts à nouveau? Ça m'étonnerait que le bon Dieu leur fasse une telle blague. Elle l'a déjà faite à Lazare, ça a suffi. Hein. Il avait un grand sens de l'humour. Vous voyez, il est mort une première fois, malade, fiévreux. Hein. On dit, mais il va venir. Oh. Voilà. Et puis, 4 jours plus tard, hop, son âme revient dans son corps. Tout le monde veut le voir, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Et puis, avec les Saintes Maries de la Mer, n'est-ce pas, on les a mis dans un bateau, on les a fait partir, et ils sont accostés, près de Marseille. D'où la gare Saint-Lazare à Paris, d'où... Voilà. Lazare est mort en France, une deuxième fois. Et Sainte Marie-Madeleine, je peux vous assurer que la tradition orale de la présence de Sainte Marie-Madeleine dans le sud de la France est très 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 tenace, c'est très forte. Mais non, c'est une légende et tout ça. Oui, c'est comme Saint-Pierre qui meurt à Rome et qui est enterré dans le cimetière de la nécropole du Vatican. C'était pas des catacombes, c'était une nécropole. Les cimetières sous terre, pas chers, creusés dans le tuf, c'était pour les personnes modestes, mais ça pouvait descendre jusqu'à 8 niveaux. Petit à petit, par les fossoresses, hein, par les personnes des pompes funèbres de l'époque, n'est-ce pas, les fossoyeurs, eh bien, les personnes plus aisées avaient des chapelles extérieures, des maisons. Et pour les païens, les âmes des morts habitaient la petite maisonnée qu'on leur faisait. Et on faisait des fenêtres bien étroites pour qu'ils n'en sortent pas, pour pas qu'ils aillent embêter les vivants. Et les Romains, hein. Et on mettait un tube de cuivre dans la bouche du mort. Et quand il faisait des repas commémoratifs, il mettait du vin ou même de la nourriture dans le tube pour nourrir le mort. Eh bien, quand Saint-Pierre a été crucifié la tête en bas dans le cirque de Néron, on l'a enterré juste à côté. Dans la nécropole vaticane, du mont Vatican, du petit mont Vatican. Eh bien, Gaius disait dans les années 180, si tu vas à Rome, va surtout vénérer la tombe de Saint-Pierre, et de Saint-Paul d'ailleurs, mais tu verras, il y a un petit monument, un mur rouge et 2 petites colonnes. Eh bien, quand Pie XII a ordonné les fouilles parce qu'on avait suffisamment de moyens techniques pour étayer, je ne sais pas si vous vous rendez compte, étayer le soubassement de la basilique, hein, des tonnes de pierres, de gravats, de marbre au-dessus du... Bon, ils n'étayaient pas la coupole, hein, la coupole repose ailleurs, hein, mais ils ont étayé tout ce qu'il y avait au-dessus. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ben, le petit monument décrit dans le petit texte qui avait été fait par Gaius, hein, ce qu'on appelle le trophée de Gaius, on l'a trouvé tel quel. Et gravé un graffiti en grec, ici est Pierre. Donc, pour tous les historiens qui disent bon, mais non, tout ça, on a inventé, c'est pour faire croire que Pierre était là et pour faire venir les gens. Là, ils ont été déçus.
C'est Gaius le jurisconsulte.
Non.
C'est un autre Gaius.
Ah, Gaius, c'est un chrétien.
C'est un prêtre de Rome.
C'est un prêtre de Rome. Alors, voyez-vous, donc, les limbes sont un lieu distinct du ciel, de l'enfer, du purgatoire, et aussi du lieu où les justes de l'Ancien Testament attendaient pour entrer au ciel à la suite du Christ en son ascension. Les limbes des patriarches, à la limite du purgatoire et de l'enfer, était un lieu où il n'y avait pas de feu, où Moïse, David attendaient, Jérémie, Joseph. Mais lui, à mon avis, il est sorti dès Pâques, avant l'ascension. D'ailleurs, on n'a pas son corps, hein, à Joseph. Il est très probable qu'il ait ressuscité le jour de Pâques. Je vois pas Jésus laisser son père adoptif attendre la fin du monde pour avoir cette magnifique récompense d'avoir la résurrection. Alors que sa mère, là, Vous direz, oui, mais c'est sa mère, lui, c'est son père adoptif. Hein, voilà. Alors justement, à la fin du monde, quel est l'ordre de la fin du monde? Eh bien, la fin du monde, ici, on va la regarder après avoir vu les événements de avant la fin du monde. Parce que ici, vous avez dans cette petite feuille volante la résurrection des morts. À la fin du monde, à la consommation des siècles, aura lieu, c'est un fait historique, la résurrection de tous les morts. Hein, vous avez toujours le... dire oui, mais ceux qui sont dans la mer et tout ça, ceux qui ont été mangés par un crocodile, dont le calcium maintenant constitue le... comment dire, l'humérus du crocodile, vous voyez. Eh bien, le bon Dieu prendra ce qu'il faudra prendre des restes de nos restes. Ézéchiel voit la poussière reformée des squelettes, la chair être créée sur les squelettes, et les âmes revenir dans les corps. Il a vu la résurrection des morts, Ézéchiel. Et il l'a décrite, hein, dans le livre d'Ézéchiel, je vous assure que c'est costaud. Tous les hommes qui auront quitté la vie depuis le commencement du monde, tous ressusciteront, même les damnés, chacun avec son propre corps. Ça, c'est un dogme. Notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean chapitre 5, versets 28-29, Saint Paul, 1 Corinthiens 15-44, le symbole des apôtres, hein, le « Je crois en Dieu », le symbole de Saint Épiphane, la profession de foi de Saint Damase, voilà, il y a tout un ensemble de textes, comment dire, magistériels, l'enseignement de l'Église. Les corps ressuscités à la fin du monde ne seront pas purement spirituels ou orbiculaires. Ça veut dire, seulement visibles, une sorte d'apparence fantomatique. Par conséquent, toute matière ne périra pas dans le cataclysme universel final. Eh bien, c'est deux fois.
Comment on tiendra sur la Terre?
Comment?
On sera très nombreux.
Mais non.
Pourquoi?
Mais depuis...
Non, même les derniers réussissent.
Oui. Alors, depuis l'apparition de l'homme sur la Terre, à mon avis, on doit être à peine 20 milliards.
C'est pas mal.
Bah oui, mais 20 milliards, vous savez, si vous êtes...
On ne sait pas quand ce sera la fin du monde, on doit être encore 20 milliards.
Ah, mais oui, tout à fait. Mais regardez, actuellement, on est 7 milliards. Et si vous prenez votre voiture, je vous assure que vous avez beaucoup d'espace.
Ce sera la même Terre. Mais 7 milliards sur la France, avec la densité de Paris, ça tient.
Oui. Oui, mais on ne sera pas debout les uns à côté des autres, quand même. Hein. On va se promener, j'espère.
Avec la même densité qu'à Paris, on va mettre 7 milliards de personnes en France.
Tout à fait.
C'est ce qui n'est pas complètement...
La densité de Paris, vous voyez. On mettrait 7 milliards de personnes en France.
Ce sera la même Terre, ça.
Ah, ça sera la même Terre. Elle aura été brûlée, entièrement brûlée sur dans sa surface, et réornée. Alors là, l'imagination des plantes, des rivières...
Les corps glorieux n'ont quand même pas les mêmes propriétés que les nôtres.
Non. Les corps glorieux seront impassibles, ils ne pourront plus être malades. Le Christ, quand il apparaît au Cénacle le matin de Pâques, hein, s'il y en a un qui tousse et qui a la grippe, Jésus, il attrape. Voilà. Impassible. Immortel, on ne peut plus mourir. Subtil, c'est-à-dire que la matière de notre corps est dans un état quasi lumineux, mais c'est quand même du calcium, c'est quand même du fer, c'est quand même de l'hydrogène, de l'oxygène, c'est des vrais atomes, mais qui sont dans un tel état qu'ils peuvent traverser la matière comme la matière lumineuse traverse le verre. Le Christ, entre dans le cénacle porte fermée, en traversant les murs ou les portes. D'ailleurs, tout cela, je vous dis, c'est lourd, hein, mais entendez-le. Moi, je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. C'est peut-être pas nécessaire au salut non plus. Mais l'enfantement du Christ, quand il est sorti du ventre de sa maman, il a utilisé les propriétés du corps glorieux, parce que le Christ avait son âme plongée en Dieu. Son corps pouvait être glorieux à tout moment. Et il l'a été lors de la transfiguration. Il a montré à ses apôtres que son corps était glorieux. Donc c'est par pur miracle qu'il s'est laissé tuer.
En fait, c'est plus facile d'y croire maintenant
qu'en
fait à l'époque. Parce que maintenant, il y a plein de thèses et tout.
Non, mais surtout, il y a plein de miracles, il y a plein de saintetés.
Non, mais sans parler de miracles, juste au niveau de la science et tout. Oui. J'avais entendu. Bah, après, ça, apparemment, c'est pas très vrai, mais genre, si on utilise 20% de nos capacités intellectuelles et tout, on peut se transporter, des trucs comme ça.
Ah, ça, je pense.
Je sais pas si c'est vrai, mais en gros, il y a des trucs.
Oui, oui, non, mais ça, les scientifiques essaient d'imaginer. Mais c'est pas la capacité intellectuelle, c'est le fait d'être, dans la vision divine. L'âme est dans une capacité augmentée. Mais là où ça sera intéressant de demander ça au bon Dieu, c'est comment se fait la bilocation. Ou comment se fait une extase, puisqu'on ne voit pas Dieu. Oui, oui. Sainte Bernadette à Lourdes, elle est en extase, et son corps devient insensible. Uniquement en regardant la Vierge. Et les enfants de Fatima était, mais alors, dans un état d'admiration de la beauté du corps de Marie, ils étaient transportés. Et qu'elle est belle, mon Dieu, mais c'était pas seulement sa beauté physique, il y avait une lumière, elle disait, mais elle est presque translucide. Et l'ange du Portugal qui leur est apparu, qui ressemblait à un jeune homme de 15 ans, était très, très translucide, enfin, il était lumineux, enfin... Mais il pouvait quand même porter le ciboire, il leur a donné la communion. Et ça c'est parce que lui, c'était un corps d'emprunt. La Vierge Marie, c'était son vrai corps. Alors, les corps ressuscités à la fin du monde, et la dernière propriété des corps glorieux, c'est d'être lumineux. Je pourrais dire lumineux avant d'être subtil. Subtil, c'est que notre matière est dans un état différent de la lourdeur de la matière actuelle. On peut se transporter là où on pense, oui. Et le corps part là où notre pensée veut être, hein. Comme les anges. Les anges sont là où ils veulent. Et c'est même pas la vitesse de la lumière, c'est la pensée.
Ils n'ont pas de corps, les anges.
Oui. Donc ils sont là où ils agissent. C'est impressionnant. Et Dieu lui-même, il est partout. Mais attention au panthéisme, c'est-à-dire que Dieu est dans ce livre. Non. Mais Dieu maintient dans l'être les atomes de ce livre. Donc il agit dans ce livre en ce moment. Si Dieu n'agissait pas dans les atomes de carbone de ce papier, eh bien ce livre serait anéanti immédiatement. Donc Dieu maintient dans l'être.
C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation.
Non. La transsubstantiation, c'est de passer d'une substance à l'autre. C'est-à-dire que la substance du pain, qui est du froment broyé il y a une transformation dans le froment pour que ça soit du pain. Même s'il n'y a pas une grande fermentation quand c'est du pain azyme, c'est quand même, il y a une certaine fermentation. C'est pas de la pure farine broyée, le pain. Il y a une mutation par le feu, eh bien, il y a une substance de cette matière. C'est comme le fer, c'est une substance. Mais imaginez que la substance du fer soit retirée pour qu'on y mette l'être d'un homme. Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse donner de l'être différent de la structure atomique extérieure. Or, le pain garde une structure atomique de pain, le goût du pain, mais il a l'être de la personne de Jésus. De la même manière, voyez-vous, quand le Dieu fait un miracle eucharistique, et que depuis 1712 ou 1724, vous avez environ 300 hosties qui avaient été volées pour le ciboire, et on avait mis les hosties négligemment dans un tronc, on les a trouvées dans un tronc, personne n'a eu peur quand même de profaner les hosties, donc il a pris le ciboire en argent doré et il a laissé les hosties dans un tronc. Eh bien, ces hosties, qui étaient à l'époque des hosties plus épaisses que maintenant, et qui se corrompaient plus facilement, ou qui se séchaient comme du biscuit, donc il fallait les consommer rapidement. Ça fait 280 ans ou 290 ans. Elles sont conservées dans un ciboire en cristal, et régulièrement on en consomme une, tous les 10-20 ans. C'est du pain frais. Donc, c'est en Italie.
C'est à Sienne, je
crois. À Sienne. Et voyez-vous, pourquoi Dieu fait ça? Mais pour bien montrer que ça ne reste pas du pain. Ah oui, mais au contraire, justement, ça reste du pain frais pendant... Oui, mais ça montre bien que, voilà, c'est autre chose. C'est comme lorsqu'il y a des miracles eucharistiques où une partie de l'hostie devient de la chair. Et que, avec la science moderne, on voit que c'est du tissu cardiaque. Alors, les corps ressuscités à la fin du monde ne seront pas purement spirituels ou orbiculaires, c'est-à-dire visibles seulement à l'œil. Par conséquent, toute matière ne périra pas dans le cataclysme universel final. Ah, vous êtes quand même venu pour ça. Allez, à pression, comme un petit biscuit. Cataclysme universel final. Ah, Hollywood. C'est deux fois. Concile de Constantinople, profession de foi du Concile de Tolède, profession de foi au Vaudois, profession de foi de Michel Paléologue. Nota bene. À la résurrection finale, les corps humains seront réunis aux âmes des défunts. Les corps glorieux des élus seront impassibles, immortels, subtils, agiles, c'est leur capacité de se mouvoir, et lumineux. Les corps des damnés seront laids et affreux, comme des démons. Les formes que prennent les démons quand ils apparaissent sur la terre par une permission de Dieu. Quand vous voyez les représentations du bouddhisme tibétain, allez au musée Guimet, il y a toute une collection d'un explorateur qui a rapporté des peintures et des parchemins du Tibet, et bien vous vous dites, mais ils ont dû voir les mêmes êtres que nous. Avant même que des missionnaires soient arrivés chez eux. Hein. Ils représentent les démons, mais de manière invraisemblable. Ou comme en Chine aussi, vous avez des représentations d'esprits démoniaques impressionnants. Mais alors, le bouddhisme tibétain, demandez au Dalai Lama, mais alors, à notre mort, on est dissous dans le grand tout? Il n'y a pas d'esprit chez vous? Ah non, mais il faut pas être, il faut atteindre une certaine nirvana, tout ça. Mais des esprits, il y en a. Ah bon? Oui, il y a des anges, il y a des démons, des sortes de démons, des sortes d'anges. Mais ils n'expliquent jamais ça. Hein. Le Dalai Lama, mais posez-lui la question. Et il vous dira, ah oui, si, il y a des anges, il y a des démons. Ah, mais c'est pas ce qu'on dit pour les cadres supérieurs, pour qu'ils oublient tout, quand ils font du zen. Ah ben oui, notre religion est quand même plus compliquée que la soupe qu'on vous sert dans un comité d'entreprise pour vous faire lâcher prise. Et... L'apôtre Saint-Pierre prédit qu'après le cataclysme final, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Expression de Saint-Pierre. C'est beau ça, nouvelle terre. Donc ça sera joli. Il y aura des choses à voir. Et à mon avis, il y aura de la musique. Oui. Ah oui, oui, oui. Mais voir Dieu sera notre plus grande joie. Mais ensuite, il y aura des joies annexes, si vous voulez, de la beauté de la création. Mais alors, vous me direz, oui, mais alors, tous ceux qui admiraient les étoiles et le cosmos, au bout d'un certain temps, ils vous auront tout vu. Oui, mais si vous voulez, c'est comme une belle musique. Si quand vous aimez un très bel air, que vous l'entendiez à 20 ans, à 40 ans ou à 70 ans, si votre goût n'a pas changé et que vous aimez toujours cette musique, ben elle vous procurera aussi le même bonheur. Hein. On s'ennuiera pas dans la vie éternelle. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour la joie des élus, ce qui reste mystérieux. Hein. Deuxième épître de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 10. l'Église fait très attention pour pas qu'on commence à se dire oh, on va voir du Romane Conti, tout ça. Voilà. Le jugement particulier, on en avait parlé. Avant de lire le jugement général, nous allons lire ce que je vous ai donné agrafé. Le retour glorieux du Christ et la fin des temps. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Je ne suis pas sûr de la traduction, je suis allé un peu vite, excusez-moi. Épître aux Hébreux. Le début de l'Épître aux Hébreux. Donc, il parle déjà de ces jours qui sont les derniers. Alors, vous me dites, mais c'était il y a quand même 1970 ans, ou 1950 ans. Petits enfants, c'est la dernière heure, dit Saint Jean dans sa première Épître. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Et donc, plus pessimiste que moi, hein, Saint-Jean. C'est difficile à trouver. Alors, c'est terrible. Ah oui, mais ça fait 19 siècles. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Saint Paul aux Philippiens. Ah oui, il est proche. Hein. Oh, 19 siècles. Vous aussi, soyez patients. Mmh, oui. Affermissez vos cœurs. Mmh. Car l'avènement du Seigneur est proche. Épître de Saint Jacques, chapitre 5, verset 8. Donc voyez, quand moi j'espère que le Seigneur va revenir en gloire pour arrêter tous les malheurs qu'on peut voir en ce moment, eh ben, je peux attendre. Hein. Quand je serai à la maison Marie-Thérèse à 92 ans, hein, et que certains d'entre vous, peut-être pas tous, viendront me voir en disant « Alors, monsieur le chanoine, c'est quand ?» Mais bientôt. Saint Pierre, première épître de Saint Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Toujours la même plaisanterie, vous aurez remarqué. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, verset 8. Voilà. Attention, d'où la condamnation qu'on va voir du millénarisme. Hein. C'est-à-dire que quand dans l'Apocalypse, on dit que le Christ va régner mille ans, ce n'est pas mille années. Voilà. Catéchisme de l'Église catholique de 1992. Numéro 1033. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Saint Jean, premier épître, chapitre 3, verset 15. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Matthieu, chapitre 25. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricorde de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Donc veuyez. Non, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas possibilité de se damner. C'est faux. Et cet état d'auto-exclusion définitive, ils sont amusés hein, pour traduire le... Enfin, je crois que ça a été rédigé en français puis ensuite en latin. Je crois que l'original de Catéchisme de l'Église catholique est en français. Auto-exclusion, c'est un néologisme un peu pauvre, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer ». Jésus parle souvent de la géhenne du feu qui ne s'éteint pas. Matthieu 5, Matthieu 13, Marc 9, réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Matthieu 10. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges, qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Matthieu 13. Et qu'il prononcera la condamnation « Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel. » S'il n'y a personne en enfer, disons, c'est ça, c'est Matthieu 25. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement, après la mort, dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel.